Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés. Nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.
Salutations chers auditeurs, vous êtes sur Radio Delta FM 90.2. Nous allons aujourd'hui vous parler du projet Edwige et des lois qui se sont créées autour. Pour cela, nous avons invité quelques spécialistes du domaine. Nous accueillons aujourd'hui Madame Fluron, secrétaire d'État à la collectivisation des informations privées informatiques, Madame Liffy, responsable de la SSVP, service de surveillance vidéographique de Paris, et un membre d'un groupe altermondialiste, Madame Corin, qui représentera l'opposition. De plus, Emma Arthur va nous présenter sa chronique et l'un de nos journalistes va exposer l'opinion d'un professeur. Mais tout d'abord, nous allons commencer par expliquer la loi. Alors, Madame la secrétaire d'État, en quoi consiste cette loi dans les grandes lignes pour débuter?
Le projet Edwige consiste à créer des fichiers informatiques regroupant différentes informations sur chaque citoyen. Cela aurait pour but de faciliter le combat contre le terrorisme et contre la criminalité.
Merci Madame pour ces explications. Nous allons maintenant avoir une vision du futur par notre chroniqueuse préférée, Emma Arthur.
Nous sommes en 2218. Depuis la Troisième Guerre mondiale, le monde a beaucoup changé. La société s'est réorganisée et est devenue totalement urbaine. La population mondiale a encore augmenté. Internet a beaucoup évolué et la publicité prend de plus en plus de place. On la voit partout. Télévision, Internet, sur les murs des villes. Les citoyens sont surveillés, localisables de n'importe où, et les caméras sont partout. Voici la famille Mann habitant à Poitiers. Akin Mann, le père, travaille dans les bureaux de surveillance de la ville. Il vérifie les agissements des citoyens auxquels il a été assigné toute la journée grâce au bracelet d'identification devenu obligatoire. Comme il travaille parfois très tard, il n'est pas souvent à la maison. Sa femme, Tani, passe ses journées dans un centre pour enfants. Elle adore ça mais ne gagne pas beaucoup d'argent. L'éducation des enfants n'est prise en charge par l'État qu'à partir de 11 ans. Avant, ils vont dans des écoles privées pour ceux qui peuvent les payer ou dans des centres avec des adultes officiellement aptes à les surveiller, en fait capables d'empêcher toute rébellion. Irina, leur fille aînée, a 17 ans et elle vient de finir ses études au lycée. Elle a décidé de se spécialiser dans l'histoire ancienne. Cela l'intéresse beaucoup, bien qu'on n'en connaisse pas grand-chose depuis la disparition mystérieuse de la plupart des documents avec les bombardements de la guerre. Kellen, son petit frère, a 9 ans. Depuis toujours très turbulent, il a été récemment repéré par les services d'identification qui ont décidé de lui greffer une puce qui permettrait de le surveiller sans arrêt. Dès qu'il aura eu ses 10 ans, il ne pourra plus rien faire sans que ses services le sachent, et cela pour toute sa vie. Autant dire que ça a refroidi son envie de faire des bêtises.
Vous écoutez Delta FM, la radio du lycée pilote innovant international sur le 90.2 FM.
Merci Emma. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous parlons de la problématique que suscite le projet Edwige. Alors, madame, en tant que représentante de la SSVP, que pensez-vous de cette idée du futur d'Edwige?
Je trouve cette chronique pleine d'aberrations. Elle est basée sur une troisième guerre, alors que s'il devait y en avoir une, l'État sauvegarderait l'histoire par plusieurs moyens. De plus, dans cette chronique, la population porte un bracelet d'identification, ce qui énerve certains citoyens. Mais aujourd'hui, il existe des ports de bracelet pour les prisonniers, et cela ne choque personne. Enfin, la population est étroitement surveillée. Elle se sent oppressée, tandis qu'à notre époque, il y a déjà des caméras partout. Pour la surveillance des banques, des magasins, pharmacies, toilettes publiques, massifs de fleurs municipales et bien d'autres. Et souvent, celles-ci permettent de dissuader les voleurs ou les criminels.
Les caméras de surveillance modifient les comportements des individus qui se trouvaient dans leur champ. Elles empêchent la spontanéité des relations sociales ou le caractère naturel des rencontres entre êtres humains. Si elles peuvent protéger les citoyens, elles entretiennent aussi un malaise et tout ça pour peu de résultats.
Peu de résultats ? Les magasins équipés de caméras vidéosurveillance sont beaucoup moins attaqués que les autres. Les statistiques le confirment.
Vous remarquerez que les magasins qui ont des caméras ont aussi des personnes assurant la surveillance. C'est bien la preuve que des caméras seules sont incapables de limiter quoi que ce soit. Si vous voulez mettre des caméras dans toutes les rues, il faudra mettre des policiers dans toutes les rues.
Si une caméra ne peut arrêter seule un criminel à l'aide d'un fichier, nous pourrons le démasquer à l'aide grâce aux forces de l'ordre.
Justement, vous avez beaucoup parlé des caméras, mais l'autre sujet qui gêne fortement, c'est la création d'un fichage informatique. C'est quand même une loi très importante.
Oui, les fichiers informatiques ont pour objectif de recenser les infractions et les criminels pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens.
Quelles sont les informations contenues dans ces fichiers? Parce que c'est le type d'information qui pousse le débat.
Les fichiers devaient contenir les informations sur les personnes ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique, ou jouant un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif. Ensuite, cibler les individus susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Le fichier pourrait aussi savoir à quelle confession et quelles origines ethniques appartiennent les citoyens.
En gros, ce projet a tous les atouts pour assurer une censure efficace, faire de la répression politique ou pourquoi pas être à l'origine d'un génocide. Connaître la confession d'une personne, c'est toucher à sa liberté individuelle. Ce genre d'information permettrait à un gouvernement mal intentionné d'éliminer ses opposants.
Je pense que vous exagérez. Ces informations n'auront pour seul objectif que de protéger les citoyens résidant en France. Avant tout, assurer la protection des Français.
Mais ce genre de procédé pourrait, c'est vrai, aider les forces de l'ordre, mais à quel prix? Ce fichier pourrait devenir un outil d'une dictature.
Oui, mais dans notre État, ce n'est pas mal intentionné. Ces fichiers avec l'aide des caméras fonctionnent. Les attentats à Londres sont un bon exemple. Très rapidement, les terroristes ont été repérés et identifiés.
Oui, mais les bombes ont tout de même explosé. Vous pourrez toujours arrêter les coupables d'un crime. Les caméras n'arrêteront pas les crimes. Elles vont juste arrêter les coupables. Le prix que vous allez investir dans ces caméras et ce fichier pourrait être utilisé à meilleur escient.
Possible.
Je vais couper momentanément le débat pour vous présenter The Get Out Clause. C'était The Get Out Clause, musique qui fit beaucoup de débats car son clip vidéo a été fait à partir de caméras de vidéosurveillance de Manchester. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'ils sont sur Delta FM 90.2. Nous parlons aujourd'hui de la polémique que suscite le projet Edwige et le fichage informatique. Monsieur le secrétaire d'État, le fichier devait pouvoir ficher des enfants de 13 ans, ce qui souleva un tonnerre de protestations parmi les Français.
Oui, mais je tiens à préciser que cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons beaucoup travaillé, débattu et fait des recherches pour parvenir à la conclusion que la délinquance des mineurs commençait de plus en plus tôt. Si cette décision ne plaît pas à tous, je vous affirme que nous sommes sûrs qu'elle est nécessaire pour mieux combattre la criminalité.
Oui, c'est possible que la délinquance comme plus tôt. Toutefois, le CNIL avait déclaré que vous avez conseillé qu'il ne fallait pas oublier le droit de pardon. Tous les jeunes font des bêtises. Ne en faites pas des meurtriers et des voleurs pour autant à cet âge. Les spécialistes sont d'accord, les jeunes changent très vite.
Oui, ne vous inquiétez pas, nous avons suivi les conseils de la CNIL et nous garderons le droit de pardon.
Autre chose qui gêne dans le fichage informatique, c'est que certains historiens avaient soulevé l'idée que ce n'était pas la première fois qu'un fichage de la population avait été effectué. D'ailleurs, les conjonctures politiques et historiques de ces fichages sont elles-mêmes mal vues. Pour reprendre en partie cette question, nous avons interrogé un professeur d'histoire.
Alors, monsieur Torres, est-ce qu'il y a des exemples de fichage informatique ou, sans être informatique, des sortes de fichages dans l'histoire? Où le retrouve-t-on, à quelle époque et dans quelle conjoncture?
Bien, alors des fichiers célèbres qui ont occasionné des problèmes ou des crises dans l'histoire de France, il y a eu quatre célèbres, notamment l'affaire des fiches du Petit Père Combes. Alors, Petit Père Combes, c'était un président du conseil de la Troisième République, qui avait pris le parti de ficher tous les officiers qui allaient à la messe pour éviter que des officiers supérieurs ne deviennent généraux, pour justement pour éviter à la République un retour des forces traditionnelles finalement en France. Donc il y a l'affaire des fiches là. Certains historiens finalement auraient émis l'idée également concernant la Troisième République, mais il y a eu une affaire notamment qui a défrayé la chronique historique, comme quoi le fichage des ouvriers étrangers aurait été le fait de la Troisième République avant la guerre, et des fichiers qui auraient pu être utilisés par la suite par Vichy. Notamment fichage des ouvriers étrangers qui auraient été entrepris par, notamment dans les années 30, par le gouvernement. Donc ça aussi, c'est une affaire de fichage, de mise en fiche de personnes en France qui ont soit défrayé la chronique, soit ont aussi été très célèbres. Alors il y aurait certainement d'autres cas, notamment de fichage, notamment les écoutes de l'Élysée aussi également, qui auraient été entreprises et qui auraient fait l'objet de fichage de la part des renseignements généraux. Donc tout ce qui est affaire de fiches représente des problèmes historiques importants dans notre pays.
Cet enregistrement appuie mon idée. Ces fichages n'ont facilité que les persécutions.
Oui, vous pouvez toujours trouver des exemples qui disent le contraire. Il y a quelque temps, un homme a violé et tué 8 femmes. Nous savons aujourd'hui qu'il était dans plusieurs fichiers, et que si ceux-ci avaient été tous regardés, 2 femmes seraient encore vivantes.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs cette histoire qui nous a poussé à créer Edwige. Il y a toujours eu des fichiers en France. On veut juste les regrouper pour qu'ils soient plus efficaces.
L'émission va bientôt toucher à sa fin. Quelle serait la conclusion pour vous?
Je pense que le projet Edwige est un outil pouvant aider le peuple, mais il faudra le surveiller pour ne pas nuire aux Français.
Je pense que c'est correct. Et vous, Madame Liffy?
Nous aussi.
L'émission touche à sa fin. Vous êtes sur Radio Delta FM 90.2.
Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés, nous parlons en rêve, nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.